Kabila.
Eric Kouima en assurant la mise en onde. Et merci auditeurs et auditrices de rester fidèles au programme de la radio Isanganiro, votre station préférée. Émettant depuis Bujumbura, bienvenue à cette grande édition de la mi-journée que nous ouvrons par les grands titres. À la une de son journal, ce sont ces longues files d'attente observées devant les bureaux du commissariat général des migrations, communément appelé PAF, ce qui cause des grognes sur le retard d'octroi des passeports par les demandeurs de ces documents. Il s'agit d'un traitement rigoureux des dossiers, selon le commissaire général des migrations, qui donne plus de précisions tout à l'heure. La modiaquine artésunate et le fancidar sont deux produits pharmaceutiques qui restent sur le marché. Alors qu'ils ont été retirés du marché, le ministère de la Santé publique avance que les stocks ne se sont pas encore vidés. Vous entendrez le porte-parole de son ministère. Au sommaire également, ce délai de 7 jours accordé aux riziculteurs Doña Kijima 2 pour avoir labouré sous menace d'être retiré ses terrains pour être cédés aux autres. Ça, c'est en Provence Ngozi. Voilà pour l'essentiel.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Rebonjour, je vous le disais tout à l'heure, grogne de certains demandeurs des passeports et autres documents à la police, au commissariat général des migrations. Ils accusent certains agents de la police et affectés qu'ils passent à côté de ceux qui font la queue pour déposer les dossiers de leur connaissance. Ce qui ralentit le processus de l'octroi de ces documents, ils demandent aux autorités du commissariat général des migrations de faire le tout possible pour décourager ce comportement. Suivez-le.
À l'intérieur, le parcours d'enregistrement accuse une lenteur, surtout causée par les agents de la police d'ici à la PAF. Ils entrent dans ces bureaux avec des dossiers de leur connaissance. Ce phénomène est monnaie courante ici. Si je considère le temps que je viens de passer ici, j'aurais déjà fini tout le processus d'enregistrement, mais ce comportement des agents de la police qui passent à côté fait défaut. Je demanderai aux autorités de la PAF de prendre des mesures pour qu'un agent de la police d'ici ne dépose plus un document au nom d'une autre personne. Que le dépôt des dossiers et l'enregistrement tiennent compte de l'ordre d'arrivée des demandeurs sans distinction aucune.
Nous avons déposé nos dossiers hier. Aujourd'hui, nous les avons récupérés. Maintenant, j'attends la phase de paiement et j'apprécie positivement le processus en cours. J'espère que la suite sera plus facile car j'ai tout sur moi.
Depuis lundi, je n'ai pas encore atteint la phase d'enregistrement. Lundi, j'ai rempli le formulaire de demande, puis on m'a dit qu'il faut revenir mardi. Je n'ai pas hésité. Mardi, j'ai eu le numéro pour enregistrement et j'attends toujours. Ce qui est déplorable est que les demandeurs qui font la queue restent là sans être reçus. Mais il y a des agents de la police qui passent à côté avec des dossiers à la main. On ne sait pas ce que les propriétaires de ces dossiers font pour convaincre ces agents. Puisqu'on n'est pas en train d'être servi pour des raisons qu'on ignore, que le commissaire général à la PAF fasse le tout possible pour qu'il y ait de l'ordre dans la délivrance de ces documents de voyage.
Sur ces grognes des demandeurs de ces documents, le commissaire de police Jimmy Hatungimana, commissaire général des migrations, confirme le surnombre de demandeurs de passeports. Il explique que tout corrompu ou corrupteur devrait être dénoncé et puni. En ce qui est de la longévité des délais d'obtention de ces passeports, le commissaire de police Hatungimana précise que cela est dû à ces longues files d'attente où chaque dossier doit être traité d'une manière rigoureuse. Suivez le commissaire de police Jimmy Hatungimana.
Les raisons qui font que ces documents ne sortent pas comme l'autre fois, c'est que les demandes sont tellement nombreuses. Alors, quand les demandes sont nombreuses, le traitement doit être rigoureux. Et surtout que dans ces demandes, vous allez trouver des irréguliers qui profitent de l'occasion de ces demandeurs. Alors nous, le traitement doit être conséquent. Nous devons y aller lentement mais sûrement. C'est-à-dire, nous devons traiter dossier par dossier pour voir s'il n'y a pas des gens qui se passent pour Burundais alors qu'ils ne le sont pas, pour les décourager. Alors, c'est pour cette raison que le traitement essaie de prendre un temps pour être sûr qu'on a délivré un passeport réellement au Burundi. Aujourd'hui, nous produisons plus ou moins 300 passeports par jour, ce qui n'était pas régulier, parce que dans le temps, les demandes étaient tellement minimes, on produisait en moyenne une centaine. Aujourd'hui, on va au-delà de 300 même.
Le commissaire de police Jimmy Hatungimana sera l'invité de ce journal. Et dans les nouvelles de la communauté est-africaine, une rencontre de consultation des parties prenantes à la rédaction préliminaire de la Constitution pour la Fédération politique des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est est prévue du 14 au 20 janvier courant à Bujumbura. Dans une correspondance du 31 décembre dernier, le secrétaire général de cette communauté a appelé les responsables chargés des affaires de l'EAC de leurs pays respectifs à inviter les experts constitutionnalistes à prendre part à ces assises et libérer Mfumukeko, exhorte le ministère en charge de l'intégration du Burundi à cette communauté de coordonner et de mobiliser les participants. Après une courte pause, on va passer en page santé. À 13h02 dans les yeux de la radio Isanganiro, poursuivons avec cette édition que vous pouvez suivre via le www.isanganiro.org. C'est un page santé, comme je l'annonçais, la mondiakine artisanale à l'aide de laquelle on traite le paludisme reste sur le marché malgré la diminution de son taux d'efficacité. Le porte-parole du ministère de la Santé publique précise que son médicament sera utilisé jusqu'à ce que le stock de nouveaux médicaments soit disponible dans tout le pays. Docteur Jean Bosco Girukwishak ajoute que ces nouveaux médicaments seront distribués dans les provinces les plus exposées au paludisme, comme Kirundo, à partir du mois de février prochain. Suivez-le au micro d'Ornella Mocho.
On a constaté qu'il y a une diminution de l'efficacité de ce produit. Sinon, le produit reste d'usage et les gens qui le prennent guérissent. Quand le ministère a pris cette décision, il y a des mesures d'accompagnement. Les partenaires peuvent alors commencer pour les nouveaux commandes. Au lieu de commander l'ancien produit, et bientôt, à la fin de ce mois de janvier, au plus tard, au début du mois de février, tout est mis en œuvre pour qu'on puisse commencer l'utilisation de ce produit dans les provinces où il y a une incidence élevée du paludisme. Là, il y a beaucoup de patients atteints par le paludisme, notamment dans les provinces de Kirundo, de Bubanza et bien d'autres. Cela, donc, on va introduire progressivement ce produit et retirer en même temps, donc progressivement, l'ancien produit qui était donc utilisé. Là où on va commencer ce nouveau produit, c'est-à-dire on arrête systématiquement donc l'ancien produit. Là où on n'a pas encore introduit, on va continuer à utiliser la modiakine artisanale.
Vous venez de dire que le taux d'efficacité pour la modiakine artisanale a diminué. Alors, pour ceux qui prennent son médicament et qui ne guérissent pas, quelle est la suite dans ce cas?
On prévoit toujours le médicament à utiliser en première intention et le médicament à utiliser en deuxième intention. Donc, c'est le cas pour le paludisme et même pour les autres.
Le porte-parole du ministère de la Santé, Dr Jean Bosco Girukwishaka, informe également que le fensidar, qui était utilisé pour le traitement du paludisme, n'est actuellement utilisé que comme mode de prévention chez les femmes enceintes. Encore une fois, Dr Jean Bosco Girukwishaka.
Pour le camp de Facidar, Facidar a été retiré dans le traitement du paludisme, surtout curatif. On ne peut plus utiliser le Facidar. Mais le Facidar reste d'usage pour le traitement préventif. Surtout chez les femmes enceintes, à partir de la 15e semaine d'aménorrhée, à raison de 4 semaines successives. Donc c'est seulement dans cette indication que ce produit est utilisé.
Santé toujours, le Centre national de transfusion sanguine appelle les hôpitaux publics ou privés à respecter les prix de la poche de sang tels que fixés par l'État. Docteur Jean Bosco Ndouarougira, directeur de ce centre, rappelle que la poche s'achète à 5000 francs burundais et à 1000 francs burundais la trousse. Il précise que le sang que collecte le CNTS n'est pas à vendre, comme en pensent certaines personnes. Il indique que les structures sanitaires ont seulement une marge bénéficiaire de 20% sur chaque poche. Écoutez plutôt Dr Jean Bosco Ndouarougira, directeur général de du CNTS.
On ne rend pas le sang parce que le sang, c'est la vie. Les gens donnent de leur sang gratuitement, bénévolement et volontairement. C'est le même sang que nous accueillons, nous obtenons des volontaires, des bénévoles. L'État a voulu fixer un coût de cession. Ce n'est pas le coût réel de la poche de centre. Mais l'État a fixé juste un petit coût que le centre va devoir recouvrer auprès des formations sanitaires pour lui permettre de rouler ce coup-là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la poche soit remise à 5 000 et la trousse à 1 000 francs. C'est-à-dire, les formations sanitaires prennent du centre régional ou du centre national la trousse et la poche à 6 000 pour que la transmission se passe. Et le même gouvernement a édicté que la marge bénéficiaire que les formations sanitaires devraient appliquer sur son même sang est de 20%. C'est-à-dire, le malade devrait payer 6 000 plus 20% de 6 000.
C'est le même prix aux hôpitaux publics, même les hôpitaux privés s'approvisionnent ici.
Ah oui, voilà, c'est ça, justement. En fait, les formations ne font que le relais, ne font que le pont. Mais sinon, on devrait donner nous-mêmes du centre national aux patients. Mais comme on n'est pas là, les formations jouent le rôle. C'est-à-dire, le privé, le confessionnel, le public, tout le monde, on lui cède la poche au même prix. Donc, il devrait aussi céder la poche au même prix que tel que je l'ai indiqué, pas au même prix qu'ils l'ont reçu, mais en ajoutant une marge de manœuvre de 20%.
Docteur Jean Bosco Ndouarougira, directeur général du CNTS, au micro de Fidel d'Antoine Sebimana. Et en page éducation, les élèves de l'école fondamentale de Winhelekwa en zone Gihosha, mairie de Bujumbura, n'ont pas encore repris les cours pour le second trimestre de 2019-2020 suite à l'occupation de cet établissement scolaire par des habitants à cause des inondations. Ces habitants demandent la réhabilitation de leur maison pour qu'ils retournent chez eux, car, disent-ils, ce n'est pas facile de vivre sous les tentes avec la famille. De plus, ils sollicitent une assistance composée du matériel scolaire pour leurs enfants. Reportage de Jean-Marie Mayonga.
Arrivés à cette école, les élèves n'ont pas encore regagné les salles de classe, alors que nous sommes à la quatrième journée du second trimestre. Et cela est dû aux habitants touchés par les inondations dans le quartier Winhelekwa, qui sont toujours dans les classes de cette école. Le chef du quartier Nyabagere Didas Nibizi, qui reste optimiste, tout en précisant que d'ici peu de jours, ces personnes seront déplacées dans une autre place, car les activités d'installation des tentes et les toilettes sont presque terminées. Certaines femmes trouvées à cette école disent que la vie dans les tentes n'est pas facile et craignent de leur sécurité, et elles demandent que la sécurité soit renforcée dans cet endroit, tandis que les hommes de leur côté demandent la réhabilitation de leurs maisons qui ont été détruites par les pluies. Sur toutes ces inquiétudes, le chef du quartier Nyabagere tranquillise tout en précisant que la situation sécuritaire sera rassurante dans cet endroit. Autre constat est que les agents de la Croix-Rouge étaient déjà sur les lieux pour recenser les écoliers qui nécessitent des aides comme matériel scolaire pour qu'ils puissent être appuyés afin qu'ils regagnent l'école comme les autres.
Jean-Marie Mayonga. Agriculture à présent. Les agriculteurs de la commune Makebuko et Bukirasazi de la province Gitega se lamentent contre les moniteurs agricoles qui n'interviennent pas techniquement lors des traçages de courbes et de niveaux afin de protéger leurs terres contre l'érosion. Certains moniteurs disent qu'ils n'ont pas de moyens de déplacement pour sillonner toutes les sous-collines, ce que nie catégoriquement le gouverneur de Gitega, Venant Manirambona, mais plutôt en garde tout moniteur qui n'offra pas son travail convenablement. Reportage de Fidèle d'Antoine Sabiman.
C'est un des cultivateurs de la zone Murenda, commune Makebuko, qui explique les bienfaits de courbes de niveau. Nous l'avons rencontré avec son voisin en train de tracer les courbes de niveau dans leur champ et nous ont dit que les moniteurs agronomes des collines ne les aident pas techniquement.
Ils sont là pour rien. Ils devraient d'abord prendre le devant et servir d'exemple en mettant en place des champs écoles paysans.
Cette cultivatrice de la zone et commune Makebuko indique qu'elle n'a jamais vu un moniteur agronome venir lui apprendre les techniques de protection contre l'érosion.
Je ne les ai jamais vus venir dans mon champ de culture pour m'apprendre. Ça nous enchanterait si jamais ils pouvaient venir nous vulgariser. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas.
Un des moniteurs de la commune Makebuko nous a dit que le manque de moyens de déplacement est un blocage dans leur travail quotidien. C'est une explication que le gouverneur de Gitega qualifie de faux, en précisant que le gouvernement a fait un octroi de vélo à ses moniteurs agronomes. Venant Manirambona appelle à ces derniers d'accomplir convenablement leurs tâches.
Chaque colline dispose des moniteurs agricoles. Ils ont les vélos informations ont été données par le gouvernement du Burundi. Et ces moniteurs sont payés mensuellement. Nous demanderions à ces moniteurs agricoles de travailler en synergie avec les chefs de colline pour aider techniquement.
Le gouverneur de Gitega met en garde tout moniteur qui ne servira pas un agriculteur comme il faut, tout en rappelant qu'ils sont payés par l'État pour faire ce travail quotidiennement.
Merci Fidèle d'Antoine Sabimana. Du centre au nord du pays où les exécuteurs du marais de Nyakijima, deux qui n'ont pas encore labouré, n'ont que 7 jours pour le faire, sinon leurs parcelles seront cédées aux associations de agriculteurs pour ne pas perturber les autres ayant déjà repiqué. Décision de sommet à crédit des chefs de collines et moniteurs agricoles des collines dont la population possède des développements de terre dans ce marais. Ils demandent aussi l'implication des hommes dans cette activité, car le constat est que des travaux risicoles ne sont réservés qu'aux seules femmes. Apollinaire Muzagara, correspondance.
Comme l'indique Jean-Paul Nyamibara, un des chefs de colline dont la population exerce des activités dans son marais de Nyakijima 2, environ 90% des parcelles sont déjà labourées et repiquées dans certains coins. Se trouvent néanmoins d'autres lopins de terre non encore labourés. Ces derniers constituent un handicap pour les autres, car perturbent la bonne circulation de l'eau pour arriver dans toutes les parcelles de son marais de 110 hectares, déplore-t-il. Après une descente de ce mercredi, Jean-Paul Nyamibara, chef de colline Gisagara, et d'autres qui étaient sur les lieux ont accordé un délai de 7 jours à ceux qui n'ont pas encore labouré pour le faire. À défaut, leurs parcelles seront octroyées aux associations des agriculteurs de ce marais, préviennent-ils. Parmi les raisons de ce retard, selon des femmes rencontrées ce mercredi dans ce marais, figure que ces femmes travaillent seules en l'absence de leur mari. Ces chefs de colline affirment que ces hommes et jeunes garçons de l'Igala figurent parmi les causes de la famine dans les ménages. Ils demandent par conséquent à ces derniers leur participation pour terminer à temps cette saison risicole, quitte à relever le niveau de production. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro.
À la source, interview.
Je vous l'avais dit au début de cette édition, place maintenant à l'invité du journal. C'est le commissaire général des migrations qui s'exprime sur l'octroi des passeports et d'autres documents délivrés par cette institution policière. Le commissaire de police est Jimmy Hatungimana. S'entretient avec ma consoeur Francine Diokoukayo.
Commissaire de police Jimmy Hatungimana, vous êtes le responsable du commissariat des migrations au Burundi. Bonjour.
Bonjour madame.
Aujourd'hui, s'observe de longues files d'attente des demandeurs des documents de voyage. Qu'est-ce qui se passe réellement?
C'est vrai, les raisons sont diverses. Des gens qui veulent effectivement effectuer des voyages. Il y a d'autres qui veulent aller poursuivre les études toujours à l'étranger. Il y a des malades. Mais les raisons qui font que ces documents ne sortent pas comme l'autre fois. Quand les demandes sont nombreuses, le traitement doit être rigoureux. Et surtout que dans ces demandes, vous allez trouver des irréguliers qui profitent de l'occasion. Le traitement doit être conséquent. Nous devons y aller lentement mais sûrement.
Vous dites que les demandes sont nombreuses aujourd'hui. Vous produisez combien de passeports par jour?
Nous produisons plus ou moins 300 passeports par jour, ce qui n'était pas régulier parce que dans le temps, les demandes étaient tellement minimes. On produisait en moyenne une centaine. Donc on va essayer de faire le maximum pour satisfaire le plus grand possible des demandeurs. Personnellement, je sors de mon bureau deux fois par jour. Une fois l'avant-midi, une deuxième fois l'après-midi. Et là, c'est pour aller écouter les doléances des gens. Il y a des gens qui ont des billets d'avion, il y a des gens qui rentrent à l'école, il y a des malades, il y a d'autres qui effectuent d'autres voyages. Et pour les autres, ils ne sont pas aussi négligés. Hein. J'essaie de mélanger les urgences et les autres cas.
Sinon, quel est le délai maximum pour avoir son passeport?
On s'était fixé un délai maximum de 1 à 3 jours. Ça, c'est le délai qui est affiché partout, même le délai, c'est 1 à 3 jours. Donc, 1, c'est l'urgence, et 3, c'est le maximum. Mais aujourd'hui, parce que les demandes sont nombreuses, le délai n'est plus respecté. Mais on est en train de faire en sorte que le délai soit respecté. Je pense qu'avec mi-janvier, pense qu'on sera en ordre pour satisfaire le grand nombre possible.
Mais pourtant, il y a des gens qui se lamentent comme quoi ils viennent de passer plus de 3 mois à attendre leur passeport.
Et je pense qu'il y a des gens qui exagèrent. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 9. Tout le mois d'octobre, il n'y a pas de lamentation. Le mois de novembre, aujourd'hui, je suis en train de traiter le document qui a été introduit le 20.
Est-ce que le prix du passeport a changé?
Le prix du passeport ne peut pas changer comme les rumeurs le disent. Le changement du prix du passeport doit passer par le Parlement, doit passer par le ministère des Finances. Et nous, on fait l'exécution.
D'autres demandeurs des documents de voyage disent que pour avoir en si peu de temps ce passeport, il faut avoir des connaissances ou donner des pots de vin. Est-ce que c'est vrai?
Nous, le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes a pris le devant pour éradiquer systématiquement le fléau corruption. Et je ne suis pas d'accord que mon commissariat puisse prendre le devant pour faire le contraire du ministère. S'il peut arriver qu'il y ait des gens qui se cachent pour demander le pot de vin, je demanderai à la population de nous aider pour dénoncer ces cas malheureux. Mais sinon, les connaissances, vous pouvez venir solliciter une urgence d'un frère ou d'une sœur, moi je peux vous l'accorder. Mais je ne sais pas ce que tu as reçu de la personne que tu es en train de chercher le document. Mais je suis en train de mettre en place une équipe qui va œuvrer jusqu'à trouver ces gens qui sont en train de saluer le commissariat.
Le commissaire de police, Jimmy Hatungemana, responsable d'immigration, je vous remercie.
Madame, c'est moi qui vous remercie.
C'est par cet invité du journal que nous mettons fin à cette édition de la mi-journée. Je dis merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Riku Imana qui l'a mise en onde. Et Nibel Nibigila, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.